Décryptage, Marie Cazadebé.
C'est une guerre interminable dont on annonce pourtant souvent la fin imminente. Mais en Syrie, le conflit est entré la semaine dernière dans sa 9e année. 8 ans déjà qu'une révolution populaire a basculé dans la répression, puis la guerre. Guerre civile, conquête djihadiste avec un régime donné pour mort, mais finalement sauvé par ses alliés. 8 ans plus tard, le pays apparaît comme un patchwork d'influences multiples, avec toujours à sa tête le même homme, indéboulonnable semble-t-il, Bachar al-Assad. Et décryptage ce soir pour reposer à plat la situation en Syrie et comprendre à qui a profité ce drame, au bilan inouï, 370 000 morts. Bienvenue à nos invités. Bonsoir Agnès Levallois.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes vice-présidente de l'IREMO, c'est l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient. Et vous êtes chargée aussi de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Nous sommes aussi en ligne avec Thomas Pierret. Bonsoir.
Bonsoir.
Chargé de recherche à l'IREMAM, c'est l'Institut de Recherche et d'Études sur les Mondes Arabes et Musulmans, basé à Aix-en-Provence, dans le sud-est de la France. Alors en 2018, donc l'année dernière, Bachar al-Assad a célébré à grand renfort de couverture médiatique et de posters à son effigie l'année de la victoire. Donc c'était 2018. Agnès Levallois, est-ce que vous lui donnez raison? Est-ce que le président syrien peut se targuer d'être le vainqueur de cette guerre? On l'a dit qui n'est pas terminée.
Tout dépend ce qu'on entend par victoire. Si la victoire, c'est le fait qu'il soit encore là. Oui, à ce moment-là, c'est une victoire. Mais que veut dire ce terme lorsque l'on sait que le pays est complètement détruit, que la moitié de la population syrienne n'habite plus dans sa maison d'origine, puisqu'il y a à peu près 5 millions de Syriens qui ont quitté la Syrie et l'autre partie qui est réfugiée à l'intérieur de ce pays. Une économie complètement dévastée et des influences régionales très importantes, puisque si Bachar al-Assad est encore au pouvoir, c'est grâce à l'intervention des Russes et des Iraniens et d'un certain nombre de milices qui sont venus combattre à côté de son armée parce que lui n'avait plus le contrôle de ce territoire. Donc quand on parle de victoire, je pense qu'il faut relativiser avec un paysage quand même qui est extrêmement catastrophique pour ce qu'est la Syrie. Et la Syrie d'avant 2011 n'existe plus, bien évidemment.
Alors vous l'avez évoqué, hein, donc les alliés étrangers qui ont sauvé son régime, on a parfois l'impression d'un pays sous de nombreuses influences, mais quel est aujourd'hui le réel pouvoir du régime? Est-ce que Bachar al-Assad est toujours le maître des lieux en Syrie où finalement il ne contrôle plus vraiment ce pays?
Alors il contrôle un certain nombre de une partie du territoire, il contrôle Damas, il contrôle quelques villes, il les contrôle grâce à l'appui militaire de ses alliés, puisque je pense que si ses alliés russes et iraniens en particulier partaient demain matin, je ne suis pas sûre qu'ils resteraient très longtemps, puisque c'est aussi cette présence étrangère qui l'aide, qui lui permet de conforter sa présence, puisqu'il y a une armée quand même qui est complètement à bout de souffle après 8 ans de guerre, et que finalement ce sont les milices aujourd'hui qui sont les plus à même d'essayer de contrôler des pans de territoire, et il y a encore des parties de ce territoire que le gouvernement de Assad ne contrôle absolument pas, en particulier toute la région Est, ainsi que la zone de Idlib et le nord du pays. Donc c'est vrai qu'il a repris il recontrôle une partie de ce territoire par rapport à il y a 2 ans, avec l'avancée significative d'Organisation État Islamique, avec le recul de cette organisation, il a plus de contrôle de ce territoire, mais il y a quand même des pans entiers qui échappent complètement à son contrôle.
Thomas Pierret, on va évoquer dans un instant justement ces zones qui lui échappe, mais quelle part du pays le régime contrôle-t-il? Est-ce qu'on peut avoir une idée, peut-être en pourcentage?
Alors, je n'ai pas un chiffre qui me viendrait immédiatement à l'esprit, mais on peut dire que bon, il contrôle l'essentiel des villes du pays, hein, on va dire les provinces les plus peuplées, c'est-à-dire l'axe qui va de la ville d'Alep au nord à Damas au sud et jusqu'à la frontière jordanienne, à la région de Deraa. Et puis la côte, hein, avec les deux principales villes côtières, Tartous et Latakié. Et à l'est, un territoire qui s'étend jusqu'à l'Euphrate, jusqu'à la ville de Deir ez-Zor. Et c'est là que se situe la limite avec les territoires contrôlés par les forces démocratiques syriennes.
On parle souvent de Syrie utile parce que c'est quoi? C'est la Syrie des grandes villes, des pôles économiques. Il a su sauver finalement les principales ressources du pays?
Pas vraiment, parce que si on parle de ressources et de séries utiles, un gros problème pour le régime, c'est que dans les territoires contrôlés par les forces démocratiques syriennes à l'est de l'Euphrate, il y a une bonne part des ressources pétrolières du pays. Et puis plus au nord, dans la Jésirée, il y a aussi une partie des ressources agricoles du pays. Donc, je pense que l'expression Syrie utile, elle est un peu problématique. Ce sont en tout cas les régions les plus peuplées, certainement, qu'il a gardées durant le conflit, et les principales villes.
La guerre, en tout cas, n'est pas terminée. C'est ce qu'ont tenu à rappeler des ONG la semaine dernière lors d'une conférence des donateurs à Bruxelles, en Belgique. Tamara Koumer est porte-parole de l'UNICEF au Moyen-Orient.
L'année dernière, les Nations Unies ont pu vérifier plus de 1100 enfants qui ont été tués. C'est le chiffre le plus élevé d'enfants tués pendant une seule année depuis le début de la guerre. Il y a un gros problème de munitions non explosées et de mines, et c'est aujourd'hui la première cause de décès des enfants en Syrie. Je pense également à Idlib, où 59 enfants sont morts au cours des dernières semaines avec une recrudescence des combats, ou encore la zone de Rukban, où on estime qu'à peu près 45 000 personnes, dont la vaste majorité sont des femmes et des enfants. Et depuis le début de l'année, il y a un enfant tous les 5 jours, souvent des enfants en très bas âge, qui sont morts à cause des conditions extrêmement difficiles dans le camp.
Alors, nos invités le disaient, des zones échappent encore au régime. Alors, on va commencer par la plus importante en superficie, c'est le nord-est, sous contrôle des forces kurdes. L'État islamique n'y détient plus qu'un réduit, celui de Barouz. Les États-Unis ont annoncé leur retrait de la région. Et ce lundi, le ministre syrien de la Défense annonce que l'armée syrienne va, je cite, « libérer ces zones par la force ou grâce à des accords de réconciliation ». Agnès Levallois, est-ce que c'est un nouveau front qui s'annonce dans cette région avec cette annonce du ministère de la Défense?
C'est vrai que cette annonce est surprenante, puisqu'on sait très bien que les forces qui sont à l'œuvre sur le terrain pour liquider les dernières poches de l'organisation État islamique, ce sont les forces démocratiques syriennes, qui sont aidées en cela par la coalition internationale qui est intervenue donc maintenant depuis plusieurs années pour faire en sorte que cette organisation ne puisse plus exister sur le territoire syrien et irakien. Donc cette déclaration est surprenante, puisque l'armée syrienne a été quand même très absente de cette reprise de cette zone. Je pense d'ailleurs, enfin j'imagine qu'elle n'a même pas les moyens de pouvoir être présente dans cette région si elle veut continuer à contrôler la Syrie qu'on a décrite tout à l'heure, à savoir cet axe Alep-Damas jusqu'à Daraa, la frontière jordanienne, et que l'armée syrienne n'a pas la capacité aujourd'hui, me semble-t-il, dans tous les cas des informations qu'on arrive à avoir, à être présente sur l'ensemble de ce territoire. Mais on voit bien que pour le gouvernement de Assad aujourd'hui, c'est un enjeu important de montrer justement qu'il va être capable. Alors le sera-t-il, c'est une autre question, mais il a besoin de communiquer sur ce thème-là précisément pour montrer qu'il reprend le contrôle du territoire, et ça va dans le sens de ce que vous disiez au début de cette émission, cette volonté de communiquer de Assad en permanence pour dire qu'il est à nouveau maître chez lui, alors que pendant plusieurs années, on savait qu'il ne contrôlait pas grand-chose. Donc on est vraiment aussi beaucoup dans de la communication par rapport à ce qui se passe sur le terrain.
Thomas Pierret, comment vous interprétez cette annonce? Est-ce que l'armée syrienne peut là aussi trouver de l'aide chez ses alliés pour alors conquérir cette région, donc sous contrôle des milices arabo-kurdes?
Écoutez, à l'heure actuelle, ce sont des rodomontades. Ce sont des déclarations qui font suite à l'annonce que les États-Unis garderaient un millier de soldats dans la région, donc pour protéger les forces démocratiques syriennes. Alors évidemment, il n'est pas du tout sûr qu'ils resteront effectivement, parce que suivre le processus de décision de l'administration américaine pour l'instant est une gageure, hein, puisqu'on a des annonces contradictoires en permanence. En tous les cas, si ces soldats américains venaient à rester, et si le parapluie militaire américain venait à continuer à protéger les forces démocratiques syriennes, le régime syrien, même avec ses alliés, ne reprendra pas l'est de la Syrie. Il n'a pas les moyens d'affronter les États-Unis, et en particulier l'aviation américaine qui offre une protection à ses forces au sol, dans aucun cas.
Vous évoquiez la position de la Maison-Blanche. Je vous propose de réécouter Donald Trump le 16 février dernier. Le président américain estimait alors que la victoire contre les djihadistes était imminente.
L'EI ne peut plus revendiquer le contrôle administratif de régions en Syrie et en Irak. Ils ne peuvent plus exploiter les ressources naturelles parce qu'ils n'ont plus de territoire. Et ils ne peuvent plus prélever l'impôt. Ils ne contrôlent plus d'écoles pour imposer leur idéologie vicieuse aux enfants. Le groupe État islamique n'a plus de territoire à partir duquel projeter des attaques terroristes sur d'autres pays. et ils n'ont plus de territoire pour recruter des combattants étrangers. Voilà, ils ont perdu leur territoire. C'est un facteur très important.
Agnès Levallois, il y a encore très peu de temps, Donald Trump était très très sûr, très catégorique. Les États-Unis vont quitter la Syrie. Le travail est fait avec Daesh. Mais finalement, la position des États-Unis reste très importante et déterminante dans cette région. Comme le disait Thomas Pierret, finalement, personne n'osera s'attaquer à cette région tant que les Américains y seront.
Oui, alors la grande difficulté, c'est d'arriver à comprendre ce que veut le Donald Trump au Moyen-Orient, puisqu'il fait des déclarations qui sont quand même contradictoires. Donc il dit qu'il va partir et après ses conseillers apparemment lui font comprendre qu'il faut quand même laisser un certain nombre de soldats américains pour protéger les Kurdes, puisque vous savez qu'il y a aussi un bras de fer aujourd'hui entre les Américains et les Turcs sur la question kurde en Syrie. Donc le fait qu'on ne puisse pas avoir une position claire et nette de la part du président américain, c'est vrai, complique l'équation, et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, après cette annonce américaine, même si celle-ci a été relativisée par la suite, puisqu'il est quand même question que des soldats américains restent encore en territoire syrien, on voit bien que c'est posé à ce moment-là très clairement la question qui allait protéger les Kurdes vis-à-vis de la position des Turcs, qui eux sont, les Turcs sont vent debout contre la possibilité d'une autonomie kurde. Et donc on voit bien que dans toute la question de la Syrie aujourd'hui, c'est aussi ce rapport de force entre différents acteurs régionaux et internationaux, et que cette guerre est une guerre qui met en jeu beaucoup d'acteurs, et il y a plusieurs guerres à l'intérieur de ce territoire syrien, et ce qui complique aussi le décryptage, avec un décryptage qui va évoluer en fonction des avancées des uns et des autres, de ces différents acteurs qui sont tous sur ce même terrain à essayer de défendre chacun leurs intérêts. Ouais. Et donc c'est vrai que face à ça, par moment, on n'arrive plus très bien à savoir qui fait quoi.
C'est le cas aussi, Thomas Pierrier, de plus à l'ouest, de cette autre zone qui échappe au régime de Damas, la province d'Idlib. Qu'est-ce qui empêche là le régime de reprendre cette région? C'est bien un accord entre deux forces étrangères.
Oui, c'est l'accord russo-turc signé à Sotchi en septembre dernier, qui pour l'instant est respecté par le camp loyaliste, hein, donc par le régime et ses alliés russes et iraniens, parce qu'il y a des troupes turques qui se sont positionnées sur la ligne de front, et que lorsque le camp loyaliste a menacé d'une grande offensive contre Idlib l'été dernier, la Turquie a sous-entendu qu'elle ne resterait pas les bras croisés, y compris même d'un point de vue militaire. Donc c'est, je dirais, actuellement la seule chose qui empêche le régime de se lancer à la reconquête de cette région.
Agnès Levallois.
Ce qu'on voit bien dans ce cas de figure, c'est que la présence d'un certain nombre de forces étrangères, régionales et internationales font craindre à chacun le risque d'un dérapage. Et on a quand même le sentiment aujourd'hui que ni les Russes, ni les Turcs, encore moins les Américains, ne peuvent prendre le risque d'un dérapage sur le terrain syrien, puisqu'avec toutes ces différentes forces qui sont présentes, on voit bien qu'on est dans une situation extrêmement délicate et extrêmement fragile, et qu'il peut y avoir ce dérapage. Et d'où l'importance finalement de ce jeu, de cette discussion entre les différents acteurs, même qui n'ont pas les mêmes positions, pour éviter, je crois que les Russes n'ont aucune envie de se trouver pris dans un conflit avec les Turcs en Syrie, alors qu'ils sont dans une alliance aujourd'hui, on le voit bien sur le plan diplomatique, puisque l'alliance qui essaye de faire déboucher un accord politique se fait entre l'Iran, les Russes et les Turcs. Et donc on voit bien qu'ils vont pas prendre le risque de se retrouver à s'affronter dans la région, par exemple, de Idlib. Donc on voit bien toute cette fragilité de la présence de tous ces acteurs qui veulent chacun quand même préserver leurs intérêts, mais sans prendre le risque d'aller trop loin et que ça dégénère.
Thomas Pierret, c'est ce qui expliquerait la longévité. On parle de 8 ans, donc on rentre dans une 9e année de la guerre en Syrie, justement. La peur de déclencher d'autres conflits que celui déjà existant sur le territoire.
Alors, disons que ce n'est pas comme ça que j'expliquerai la durée du conflit. Je pense que le conflit aurait perduré, y compris sans intervention militaire étrangère. Les rebelles auraient sans doute pris Damas, mais la guerre aurait pu continuer dans d'autres régions. Je pense que non. Les interventions militaires, d'une certaine manière, ont accéléré, alors peut-être pas la fin du conflit, mais en tout cas une diminution des combats. Évidemment, sans rien régler sur le plan politique. Hein, il ne s'agit évidemment pas d'un scénario idéal. Et puis aujourd'hui, effectivement, le fait qu'on ait finalement un territoire divisé entre trois protectorats, un protectorat russo-iranien sur les zones du régime, un protectorat américain sur l'est et un protectorat turc sur le nord-est, bah, c'est quelque chose qui stabilise d'une certaine manière les lignes de front.
Mmh. Le bilan humain de ces 8 années, en tout cas, est vertigineux. 370 000 morts, ça c'est le réseau syrien des droits de l'homme donc, qui avance ce chiffre. On compte 7 à 8 millions de déplacés internes, 6 millions d'exilés. Certains ont pris le chemin du retour en Syrie, comme cette mère de famille et cet adolescent que vous allez entendre. Ils ont été rencontrés par notre correspondant au Liban. Ils profitaient en janvier dernier d'une opération de rapatriement.
Je suis de la banlieue de Damas, de la ville de Harasta. Je suis partie au début de l'année 2012 à cause de la guerre. La situation était terrible là-bas à l'époque. C'était des missiles, des roquettes, des échanges de tirs. La ville était assiégée, mais on a réussi à s'enfuir. Moi, maintenant, je veux rentrer, louer une maison à Damas ou dans la banlieue. Là-bas, on peut peut-être trouver quelque chose d'acceptable, mais retrouver ma maison, non, c'est pas possible.
Aujourd'hui, c'est un jour important, un jour historique. J'ai 16 ans, ça fait 8 ans que je suis au Liban et je veux rentrer. Moi, je viens de Deraa. La municipalité a repris la ville, l'électricité est revenue, la frontière avec la Jordanie est de nouveau ouverte. Je veux rentrer, reprendre ma maison, revoir les gens, ma grand-mère que je n'ai pas vue depuis si longtemps. Tout le monde doit pouvoir rentrer dans son pays. Et puis, il n'y a pas plus beau que la Syrie.
Selon les autorités libanaises, 90 000 réfugiés syriens seraient rentrés dans leur pays depuis le mois de juillet 2018. Agnès Levallois, est-ce qu'on peut parler de vague de retour ou c'est bien trop tôt et finalement les cas qu'on vient d'entendre sont assez restreints?
Je crois que c'est bien trop tôt pour parler de vague de retour puisque les Syriens qui sont partis ont la plus grande appréhension à l'idée de rentrer chez eux puisque ceux qui sont partis soit étaient des opposants et donc ils savent qu'ils vont être très mal accueillis en rentrant en Syrie. Certains sont partis pas forcément parce qu'ils étaient opposants mais parce que les conditions de vie étaient difficiles. Si ce sont des jeunes hommes, ils savent très bien qu'ils vont être à ce moment-là pris dans l'armée immédiatement parce que l'armée a besoin d'avoir des jeunes à former puisque l'armée a été quand même a subi des coups terribles depuis ces 8 ans de guerre. Donc là aussi, il y a un paradoxe dans la communication du régime à propos du retour des réfugiés, parce que d'un côté, le régime dit qu'il veut que les Syriens rentrent, ce qui est le signe de la normalité qu'il essaye de vendre sur la scène internationale. Et en même temps, ce régime ne veut pas que certains Syriens rentrent et ne veut pas que la majorité rentre, puisque le Bachar el-Assad lui-même a déclaré que finalement, maintenant, la société était beaucoup plus homogène après le départ de ceux qui étaient opposés à son régime en 2011 et dans les années qui ont suivi. Donc, on est dans une situation absolument abracadabrante de ce point de vue-là.
Et pour conclure, finalement, ce régime dictatorial est exactement le même qu'en 2011. Les Syriens qui s'y opposeraient prennent les mêmes risques.
C'est évident que ceux qui rentreraient aujourd'hui prendraient des risques énormes et donc je ne vois pas la majorité des Syriens, en tous les cas les hommes rentraient aujourd'hui en raison de cette situation avec des lois, une loi qui a été prise en particulier par le régime qui est que les maisons maintenant qui ont été vidées, qui ont été abandonnées par les personnes qui sont parties, les Syriens qui sont partis, vont tomber dans le domaine public, vont être récupérés par le régime. Donc les Syriens vont rentrer où, comment, dans quelles conditions et avec quoi au bout du compte?
Merci beaucoup Thomas Pierret, chargé de recherche à l'IRMAM, d'avoir participé à ce décryptage. Merci Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO. Je remercie aussi toute l'équipe de décryptage, Éléonore Crény qui m'a aidé à préparer cette émission, Gérard Perrault à la documentation, Laurent Sarniguet à la sonothèque et Claude Battista à la réalisation. Émission à retrouver sur RFI.fr et sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, le point sur l'actualité africaine.